Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous suivez la radio Nzamba Gatkakawe, merci pour votre fidélité. C'est l'heure du journal en français. Donc voici d'abord les principaux titres. Deux policiers ont été tués par balle hier dans le commissariat de la commune de Nyanzarak en province de Makamba. Le présumé coupable est un autre policier qui aurait commis le crime par mégarde. Et puis la Ligue des droits de l'homme ITK fait un bilan d'insécurité accablant pendant les trois années que le président Evariste Ndayishimiye vient de passer au pouvoir. Elle a notamment inventorié plus de 1800 personnes tuées et plus de 130 autres enlevées au cours de cette période. Enfin, dans le domaine du sport, l'équipe nationale de basketball du Burundi continue le sans faute dans les éliminatoires de la FOCAN qui se déroule en Tanzanie et vient de décrocher 3 victoires consécutives. Voilà pour le sommaire, soyez tous les bienvenus.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue encore une fois dans ce journal. Deux policiers ont été assassinés par un de leurs confrères dans la matinée d'hier dimanche au commissariat de la commune Nyanzarak en province Makamba. Nos sources à Nyanzarak nous disent que le policier qui a commis ce forfait était stagiaire dans le travail du commissariat et qu'il aurait fusillé ses collègues par mégarde. Il a été arrêté sur le champ. On fait le point avec Alain Majesté Varenga.
Selon des sources policières, Simplice Niyomukiza, candidat policier, était affecté au cachot du commissariat communal de police en Nyanzarak. Le matin de ce dimanche, vers 6 heures du matin, il a demandé à son collègue de le relayer pour la garder des prisonniers se trouvant au cachet de son commissariat car il se sentait fatigué pour aller se reposer. Cependant, arrivé au dortoir, il a fusillé des confrères d'armes, Gordien Nzgumana et Vianney Minani, candidats policiers, aussi qui sont morts sur le champ. Ses collègues stagiaires témoignent que l'incident s'est produit par mégarde. Il a été arrêté et transféré au cachot du parquet cet avant-midi pour confectionner un dossier. Simplice Niyomukiza est un agent de police, stagiaire originaire de la province Changuzo. Les corps des victimes reposent à la morgue de l'hôpital Nyanzarak.
Merci à la Majesté Valenga. Ce 19 juin, c'est la journée internationale de lutte contre les violences sexuelles en temps de guerre. Au Burundi, ce crime a été commis de façon soutenue. C'est ce que fait remarquer Marie-Louise Valichako, présidente du mouvement Inamahoro. Elle s'insurge contre l'impunité dont jouissent les auteurs de ces violences. Cela participe à détruire davantage les victimes, comme le fait constater Marie-Louise Valichako, qui appelle le gouvernement et particulièrement le chef de l'État à sortir de leur silence et sévir contre ce crime. On l'écoute.
La crise politico-sécuritaire que connaît le Burundi depuis avril 2015 a révélé une dimension jamais réalisée auparavant dans la dépravation des mœurs et des valeurs et la déshumanisation de notre peuple. Les chansons scandées sur la place publique par la jeunesse Imbonerakure en présence des dirigeants du parti au pouvoir CNDD-FDD en 2015, disant « engrosser les adversaires auxquels donne naissance aux Imbonerakure », ainsi que les témoignages des nombreuses femmes et filles burundaises victimes de viols et autres violences basées sur le genre, spécialement en date du 11 et 12 décembre 2015, sans oublier ces jeunes qui étaient forcés par des agents de sécurité des îles Imbonerakure de violer leur mère ou leur sœur en présence de tout le monde, tout cela n'aura pas laissé indifférent quiconque croit encore que le Burundi peut redevenir cette patrie qui nous a élevés et qui nous a donné un nom. Ce crime est un crime qui détruit et la victime et son auteur. Malheureusement, l'impunité qui couvre souvent ce fléau, comme nous l'avons vu au Burundi, aggrave encore ses effets destructeurs du fait que les agresseurs restent libres alors que les victimes portent ces séquelles profondes qui les paralysent tant physiquement que moralement, psychologiquement. On n'oublie pas non plus de rappeler combien la violence sexuelle est un blocage à la participation des femmes à la vie sociale, politique et économique. Il est donc nécessaire que les dirigeants au plus haut niveau en premier lieu le président de la République, qui lève la voix pour condamner ces violences sexuelles et les élimine définitivement de notre pays. Il faut qu'il mette en place des structures de prévention, de protection, de prise en charge et de réhabilitation des survivantes de ces crimes odieux qui déshumanisent toute une nation et le monde dans son ensemble.
Dans la suite de ce journal, plus de 1800 personnes ont été tuées, plus de 130 enlevées et 200 autres torturées pendant les 3 années que Wallis Ndayishimiye vient de passer à la tête du pays, selon le rapport fait par la Ligue des droits de l'homme ITEKA. L'organisation de défense des droits de l'homme a constaté que ces exactions sont commises en grande partie par des jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir, en collaboration avec certains membres des forces de sécurité et du service national de renseignement. En clair, Nicolas Guizé, son président, demande au président Evariste Ndayishimiye de rectifier le tir pour lutter efficacement contre l'impunité. Je vous prie de l'écouter.
Concernant la situation des droits de l'homme et sécuritaire, que la ITEKA suit de près, on remarque que des assassinats sont toujours observés. Durant ces 3 ans, 1806 personnes ont été assassinés et la ITEKA s'inquiète également par le phénomène des cadavres qui se retrouvent d'ici et là dans les ruisseaux, dans les marais, dans les caniveaux et qui n'est pas d'enquête pour connaître les mobiles et les identités de ces personnes assassinées. Autre chose, les disparitions et arrivements continuent. Car durant les 3 ans, la ITEKA a pu documenter ça, 38 cas. Vous entendez que c'est dans un pays où les responsables du pays ne cessent pas de dire qu'elle est pérenne. Et avec son nombre, c'est rarement. Les violences sexuelles basées sur le genre continuent aussi d'une arrivée inquiétante. Car malgré les défis liés au travail de la ITEKA, nous avons pu documenter 376 cas. Des tortures aussi continuent, 201 cas ont été documentés et des arrestations arbitraires sont aussi observées durant les 3 ans, la ITEKA a pu documenter 1964. Alors que le pouvoir en place prenait toujours qu'il faut libérer les cachots, mais une chose est son contraire. Il doit d'abord faire un travail aussi énorme dans son système. Si le système est un système verrouillé, c'est un système où les criminels sont toujours là, il faut d'abord les tenir ces présumés auteurs. Parce que à la ITEKA, on remarque vraiment que le fait que cette violation persiste, c'est que il y a toujours l'impunité qui règne.
Toujours dans le chapitre de l'évaluation des 3 années au pouvoir d'Evariste Ndayishimiye, les activités des partis politiques de l'opposition n'ont pas été visibles. Cela prouve également que la gouvernance basée sur la démocratie est loin d'être une réalité au Burundi. C'est le constat apporté par Frédéric Lambourguignon-Villa, président de la coalition des partis d'opposition Sefou Arusha. Pour lui, le Burundi ne peut pas avancer parce que le président ne s'est pas entouré par de vraies personnes. Écoutez.
Et sur le plan politique, l'organisation politique du pays continue justement à avoir des points qui laissent à désirer, notamment l'organisation des partis politiques. On voit que les partis politiques en réalité ne fonctionnent pas, n'existent presque pas, ils n'existent que de nom et fonctionnent au ralenti. Le CNDD-FDD qui semble fonctionner n'est pas un parti politique comme tel, c'est une organisation des personnes qui ont décidé justement de faire main basse sur le pays, ça on le voit, donc on ne peut pas dire qu'il s'agit véritablement d'un parti politique. Il faut réorganiser la classe politique pour qu'elle puisse rayonner et orienter le pays sur la voie de la concorde nationale et du développement. Je crois que c'est cela qui devrait quand même être visible dans sa politique, ce qui n'est pas le cas. Autre élément important que je considère comme capital, c'est de laisser la société civile venir exercer ses fonctions, laisser tous les politiciens rentrer dans leur propre pays, laisser les radios privées qui ont quitté le Burundi de retourner exercer leur métier et pour que justement le peuple puisse être capable de suivre ce qui se fait dans son propre pays et absolument arrêter cette histoire de haine, cette histoire de peur qu'on observe dans le pays et finalement amener le peuple à travailler et à manger à leur faim. Tout ça sont des éléments qui laissent beaucoup de choses à désirer, franchement, à tel point que on peut dire que le bilan de Ndayishi Miye est un peu positif, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore négatives, qu'il doit corriger, s'il le veut bien.
Cet ancien vice-président de la République du Burundi appelle Ndayishi Miye à se baser sur l'accord d'Arusha pour gouverner et de s'approcher des hommes qu'il faut pour gérer le pays. Encore une fois, Frédéric Wambrinyumvira.
Ce que je peux conseiller, c'est qu'il devait quand même changer de méthodologie et aller chercher les Burundais où ils sont, partout où ils sont, et essayer d'instaurer un nouveau système qui met justement les hommes qu'il faut aux places qu'il faut et essayer de retourner à une société nomique, ça veut dire une société gérée par des lois. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une société anomique où n'importe qui peut faire du n'importe quoi parce qu'il est protégé par le CNDD-FDD et n'avoir où porter plainte. On le voit partout où, dans le pays. Donc, ce qui fait qu'il y a moyen de changer la société et la reconstruire autrement.
Inzamba.
Dans l'actualité de ce lundi également, la Commission électorale nationale indépendante CENI pense déjà à l'élaboration de la loi électorale pour 2025 et 2027. L'annonce a été faite ce lundi par le président de la CENI, Pierre Claver-Akazirissé, a indiqué que cette loi va s'inspirer de la nouvelle loi portant des limitations des entités administratives du Burundi. Suivez.
Toute élection repose sur un cadre légal et réglementaire. Et c'est en période préélectorale comme celle-ci que ce cadre doit être mis en place. Après les élections, nous avons procédé à une évaluation du processus électoral ensemble avec les partenaires électoraux qui avaient participé dans ce processus, à savoir les partis politiques, la société civile, les confessions religieuses, l'administration, la magistrature, les organes de sécurité et des recommandations en vue d'améliorer le processus. Les processus postérieurs sont sortis de cette consultation. Enfin, il y a la nouvelle loi organique numéro 1/5 du 16 mars 2023 portant détermination et délimitation des provinces, des communes, des zones, des collines et aux quartiers de la République du Burundi qui vient d'être promulguée. Tenant compte de tout cela, c'est-à-dire l'expérience de la CENI, les recommandations des partenaires électoraux et cette nouvelle loi, la CENI réfléchit sur l'amendement de certaines dispositions de la loi électorale actuelle. Les propositions qui seront dégagées seront transmises aux autorités habilitées. Deuxième activité, c'est la préparation de la cartographie électorale. La cartographie électorale est un outil indispensable, préalable à la mise en œuvre des opérations électorales. Elle consiste à identifier de manière précise, sur tout le territoire national, les centres d'inscription des futurs électeurs qui deviendront plus tard des centres de vote logeant les bureaux de vote. Vous savez que les données que nous avons aujourd'hui correspondent aux anciennes délimitations des entités administratives du pays et il nous faut maintenant appliquer la nouvelle loi qui a mis en place les nouvelles délimitations territoriales. Ce travail de cartographie a déjà commencé et doit continuer, y compris sur le terrain.
Le gouvernement et la Banque de la République du Burundi, BRB, devraient sortir un rapport sur l'opération de démonétisation qui a duré une semaine. C'est ce que propose Faustin Dikoumana, directeur national de l'ONG locale PASTEM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités. Il trouve que les Burundais ont le droit de savoir l'intérêt apporté par ce travail. Cela vaudrait la peine, surtout qu'il y a eu des commerçants qui ont été frappés par l'opération par ignorance. Écoutez, Faustin Dikoumana.
Et parce que j'imagine que la Banque centrale ou le gouvernement devrait donner rapport sur les résultats de l'opération, parce que l'opération a causé beaucoup de dommages de collatéraux à certes. Imaginez parce que la thésaurisation et le fait de ne pas avoir un compte en banque n'étant pas privé par la loi, il y a des gens qui avaient thésaurisé de façon innocente, innocemment. Et si quelqu'un avait conservé, thésaurisé à la maison 20 millions, 25 millions, et on limite le versement à 10 millions, ça veut dire que les 10 millions, les 15 millions, les 5 millions, il les a perdus comme ça. Ça veut dire qu'il y a un coût énorme. Il y a beaucoup de commerçants qui feraient des affaires, 25 millions, 10 millions par jour, 5, et donc garder une somme d'argent à la maison, plus de 10 millions, c'est un capital annulé. Il y a aussi la perturbation des activités commerciales qu'on a observé. On a observé une perturbation des moyens de paiement des activités commerciales. Et dans certains coins, le commerce a été arrêté. Le temps perdu pour faire des files d'attente et attendre pour le passement des billets. En tout cas, cette semaine, vraiment, c'était une semaine stressante pour beaucoup d'opérateurs économiques, pour beaucoup même de citoyens burundais. Donc, c'est un coup. Et sans oublier le coût des billets commandés. Ce sont des dollars qui ont été transférés à l'étranger pour commander ces nouveaux billets, alors que les autres qui ont été remplacés étaient des billets encore solides, encore commandes. J'imagine qu'il y a un coût quand même que le pays a supporté. Il faut voir si les résultats de tomber pour cette opération vraiment valent le coût. Parce que on peut s'imaginer ce que ceux qui ont détourné, les détournés des deniers publics soupçonnés, est-ce qu'on les a identifiés? Quel est vraiment le résultat de l'opération? Encore une fois, est-ce que peut-on dire que la clôture de l'opération de démonétisation justifie la fin de la poursuite des personnes qui pourraient se rendre coupables des actes de détournement des deniers publics? Non, il faut continuer parce que le blanchiment est puni par la loi, le blanchiment illicite, il faut vraiment une justice forte. Il faut des moyens forts pour frapper fort contre ces détournés.
Dans le domaine de la protection de l'environnement, deux hommes résidant à la commune de Malgeni, en commune de province de Muyinga, sont en garde à vue depuis ce dimanche. Ils sont accusés d'avoir abattu dimanche matin un buffle sur les quatre qui avaient déserté le parc national de la Louvou. Selon une source administrative, dès l'ouverture de l'enquête, un certain Julien Sundandari a été interpellé par l'administration et remis à la police. L'Office burundais pour la protection de l'environnement appelle la population à protéger les animaux du parc national de la Louvou. Un mot de sport pour boucler ce journal. L'équipe nationale de basketball se comporte bien dans les éliminatoires de basketball de la FOCAN 2023 qui se déroule en Tanzanie. 3 victoires consécutives contre le Sud-Soudan, la Tanzanie et l'Érythrée. Le Burundi sera aux prises avec le Rwanda ce mercredi. Au volleyball, ce dimanche, clôture du championnat de l'association de volleyball de Bujumbura édition 2022-2023. L'occasion de délivrer différentes primes aux meilleurs joueurs. Alexandre Liungeko pour les détails.
3 victoires consécutives pour la sélection burundaise à Dar es Salaam en Tanzanie, ce lundi, dimanche et samedi. Ce lundi, le Burundi a battu l'Érythrée par 73 points à 68. Et dimanche, le Burundi s'est imposé sur la Tanzanie à domicile par 77 à 63 points. Contre le Sud-Soudan, le Burundi a dominé par 57 à 42 points. C'était ce samedi. Et ces matchs se déroulent dans le cadre des éliminatoires de basketball de l'AfroCan 2023. Vous saurez que sur les 12 joueurs sélectionnés, il y a une large représentation des poulains d'Aaron Kagabo. 7 joueurs viennent du club Burunani et c'est le même coach de Burunani qui est coach principal de cette formation burundaise qui visiblement fait partie des favoris de la zone 5. Ce mercredi, le match très attendu opposera le Burundi au Rwanda. Au volleyball, finale ce dimanche du tournoi de clôture du championnat, l'association de volleyball de Bujumbura, édition 2022-2023. Côté masculin, c'est le club Rukinzo de la police nationale qui a remporté ce tournoi en battant amical par 3-7 à 1. Et chez les dames, la coupe est revenue à Gender Light Club qui s'est imposé difficilement sur Muzinga par 3-7 à 2. Les meilleurs joueurs de la saison ont été également primés et c'est notamment Pamela de JLC qui a été sacrée MVP de l'année côté féminin et Boul Omar de Rukinzo, lui, sacré MVP de l'année côté garçon. A noter que le championnat national de volleyball débute avec le week-end prochain. Bouclons par le judo où la Burundaise Signoline Kanyamuleza a été sacrée ce dimanche à Abidjan, Côte d'Ivoire, vice-championne d'Afrique, témoin de 48 kilos.
Merci Alexandre Niyongeko et c'est par là que s'achève ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Au revoir et à la prochaine.